Cours est dédié à la mémoire, l'élévation de l'âme, l'Ilui Neshama, de David Ben Yosef Hassan. On va parler un peu maintenant de Yom Kippour, dans quelques jours. Les choses essentielles, les choses accessoires. On va parler des choses plutôt accessoires. L'essentiel, c'est quoi? C'est la Tshuva. Nous avons déjà fait toute une série de cours là-dessus. On va en reparler encore, mais évidemment, la mission numéro 1 de Yom Kippour, c'est la Tshuva. Donc chacun maintenant se prépare durant ces jours-là, qu'il fasse son bilan personnel, par écrit, ce qui ne va pas, ce qu'il doit arranger, ce qu'il prend sur lui de changer, et qu'il fasse Tshuva, une bonne Tshuva complète. Minag Israël, c'est une coutume d'Israël, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de le faire, kaparot. C'est bien que celui qui fait aux autres, il a déjà fait sur lui-même. Ou quelqu'un d'autre lui a fait, ou il s'est fait sur lui-même, après il va faire la kapara aux autres. Comme on voit que le Kohen Gadol aussi, il faisait d'abord vidouille à Yom Kippour sur lui-même, lui et sa famille, après faisait pour lui et les Kohanim, après faisait pour tout un Israël. Donc il faut commencer pour aller purifier les autres, il faut d'abord se purifier soi-même. Il est très dur de trouver un shochet à ces heures-ci de la nuit, qui va après, jusqu'à la fête, s'occuper de donner le poulet, il faut donner aux pauvres, ce poulet c'est pas pour nous pour le manger, c'est l'essentiel c'est de donner ça en tzedaka. Alors il y a plusieurs coutumes qui ont été mises à la place. Une, de prendre de l'argent, pas forcément à ces heures-ci, durant toute la journée, prendre de l'argent, mettre et dire, ma'ot elu, c'est cette somme d'argent, ma'ot elu, halifati, tmurati, kaparati. Au lieu de dire, zou, à propos de celui-là, ce poulet, cette somme d'argent. Il y en a qui vont avec du poisson, il y en a qui vont maintenant, vous verrez un peu dans tous les quartiers de Jérusalem, il y a des n'importe quelle yeshiva ou boîte, elles vendent des poulets, et tu achètes le poulet, tu fais la kapara, tu redonnes le poulet, et eux s'occupent après de les amener ça à la machreta, à l'endroit où ils s'égorgent les poulets, et ça passe. Bon, tu as donné de l'argent, tu as aidé des mosquées institutions de Torah, ce qui est très bien aussi. Nous sommes bien sûr intéressés à recevoir les sommes des caparotes, s'il y en a. On fera pour les enfants aussi, si possible. Une femme enceinte, c'est bien de faire, de prendre un mâle et une femelle, sachant pas si le bébé, il sera mal jeune. Donc, ça va le faire avec deux poulets, un mâle et un femelle. Mais tout ça n'est qu'un minhag. C'est pas parce qu'on a fait cela qu'on est sauvé à Yom Kippour. D'accord? On est sauvé à Yom Kippour parce qu'on a fait Tshuva. Celui qui fait toutes les caparotes du monde, il n'a pas fait Tshuva, il n'a rien fait. Celui qui a fait les caparotes, celui qui a fait Tshuva, il n'a pas fait les caparotes, alors il l'a fait. Bon, c'est bien de le faire. Pas plus. Il faut donner bien le poids de chaque chose qui est indiqué, d'accord? C'est pas plus qu'un minhag qu'une coutume. Il est par contre très important. Absolument important. De faire la chose suivante. Yom Kippour pardonne les péchés qu'il y a entre Dieu et l'homme. Si quelqu'un a péché envers Dieu, mais pas les péchés entre l'homme et l'homme. Si quelqu'un a péché envers un autre, il doit impérativement, avant Kippour, durant toute cette semaine-là maintenant, à lui demander pardon. Si la personne refuse, il revient une deuxième fois. S'il refuse une troisième, il revient une troisième fois. Chaque fois, avec une délégation d'amis pour le convaincre de pardonner. Et si il pardonne pas après trois fois, alors le péché est sur celui qui a refusé de pardonner. À moins qu'il y a deux péchés pour lesquels celui qui a été lésé ne peut ne pas pardonner. Le premier ici c'est son rav, le rav Mouvrak, un rav qui est vraiment le rav duquel on a pris la majorité de sa Torah. Si tu l'as fait du mal et lui ne veut pas te pardonner, il faut que tu ailles même mille fois lui demander pardon. L'autre cas est Motsi Shemra. Si quelqu'un a fait un Lashon Hara, mais mensonger, Lashon Hara, c'est une vérité. Je dis que quelqu'un, par exemple, c'est terrible, il ronfle. D'accord? Je vais à l'échiva, je raconte sur tout le monde que Moshe Cohen, il ronfle. C'est un chonara, mais il ronfle vraiment. Maintenant, je prends un autre, Yaakov Levi, qui lui ne ronfle jamais. Je dis, Yaakov Levi, il ronfle comme Moshe Cohen, d'accord? Il ronfle aussi. Ça s'appelle Motsi Shemra. La chonara, c'est une chose qui est vraie. Motsi Shemra, quand tu dis une chose qui est fausse. Le pauvre, il n'a rien fait. C'est un tzadik. Tu sors sur lui un nom mauvais. Là, tu peux demander pardon, même mille fois, il a le droit de ne pas pardonner. Néanmoins, pour lui, c'est quand même une mesure de piété. C'est très conseillé pour lui de pardonner. Parce que nous aussi, si on va, comme nous on se comporte avec les autres, comme ça Dieu se comporte avec nous. Si moi maintenant, je me mets au niveau de la ligne droite de la justice, Dieu va aussi me juger au niveau de la ligne droite de la justice. Et qui, si Dieu vient avec la justice, nous juger, qui peut résister à la justice de Dieu? C'est certain qu'on est fichu. Nous demandons à Dieu d'aller au-delà de la justice, de fermer les yeux. Alors nous aussi, on doit faire preuve de fermer les yeux pour ce que les gens ont péché envers nous. Oui.
Est-ce que ça signifie par pardon? Il suffit de dire Mechila, ou alors il y a peut-être plus vrai pardon, c'est-à-dire...
Du moment que tu as fait Mechila, alors il est certain que...
Il y a des circonstances, c'est après demander Mechila, ou alors...
Bien sûr, la personne vient, je t'ai mis du poil à gratter, j'ai fait à la sonoration, je dois dire ce que j'ai fait.
Il faut tout dire.
Il faut tout dire, ou bien lui demander, écoute, pardonne-moi pour tout ce que j'aurais pu te faire. Mais le lashon hara, il faut dire, et si j'ai parlé sur toi, j'imagine, enfin, le mieux c'est de lui dire, j'ai parlé devant toi, j'ai parlé sur toi du lashon hara. C'est très dur à faire. Il y en a qui disent aussi que quand tu vas lui dire ça, alors ça va faire toute une histoire, il va être encore plus touché. Donc, il faut essayer de le faire passer comme ça, écoute, il se peut que je fasse de lashon hara, ça se peut, je ne me souviens pas. Mais au cas où je t'en ai fait, je ne demande pas, où j'ai fait de lashon hara contre toi, tu sais que c'est pas toujours dans les relations, tout ça, pardonne-moi.
C'est du mensonge, vu que c'est...
Et moi, je te pardonne si tu as fait sur moi du lashon hara, parce que Minastam, lui aussi, l'a fait sur toi. Donc, voilà.
Parce que là, c'est un peu du mensonge. Parce
pourquoi
que, pour une raison, c'est que la personne dit si jamais je ne m'en souviens pas. Parce que c'est la personne a un cas précis où il se souvient qu'il a fait.
Bon, on a le droit de modifier. On n'aime pas dire le mot mentir, on est les chanotes modifiés, c'est pour arriver au shalom. Moi maintenant je veux qu'il y ait le shalom, je veux maintenant qu'il n'y ait pas une histoire, je veux que j'ai fait la shonara, je demande pardon. Il a bien entendu, il n'est pas bête le type. Mais aussi c'est qu'il a fait la shonara sur moi. Alors écoute, voilà, on se demande pardon, si jamais moi je fais la shonara sur toi, je te demande pardon, si j'ai fait la shonara sur moi, je te pardonne aussi. Voilà, mechila, mechila, et voilà, terminé.
D'accord.
Il y a eu un dommage. Il y a eu un dommage. C'est parce que la Shonara, donc il faut quand même lui dire, lui il doit savoir ce qui s'est passé.
Donc il faut.
Voilà, j'ai envie d'aller lui dire, ouais, c'est beaucoup plus difficile. Dans ce cas-là, il y a une autre combine qui est plus simple, c'est d'aller voir les personnes à qui on a parlé de Shonara, lui dire, écoute, ce que je te dis, c'est l'autre sur Moshe Cohen qui ronflait. Peut-être m'en fous. Je suis trompé, c'est en fait c'est un enregistreur qu'il y avait dans la chambre. Enfin, faut un moment donné. C'est très dur, hein. Une fois que j'ai un lashon hara, pour le retirer, c'est extrêmement dur. Les gens aiment croire au lashon hara. Si tu arrives à sortir de l'esprit de ceux à qui tu as pris le lashon hara, tu arrives à sortir ce lashon hara de l'esprit, alors c'est valable. Oui.
Sans vouloir écarter du sujet, hein. David Améler, il avait, on s'appelle, fait un peu un truc de Hachem. Sans en faire, c'est-à-dire que les gens, lorsque il a uni, on va dire, le mari de, comment s'appelle déjà,
Uri Achiti,
au front de la bataille,
ouais.
Où il est mort, et
ouais.
Il s'est marié avec sa femme.
Ouais.
Les gens disent qu'il y a une rumeur qui s'est répandue, comme quoi il avait mis au front exprès pour pouvoir se marier avec sa femme.
Mm-hmm.
Alors non, c'est très bien que c'est faux, on ne sait pas après pourquoi, mais n'empêche qu'il a dû payer sur le HM, il a dû jeûner jusqu'à la fin de sa vie, et c'est une fois qu'il est mort qu'on a dévoilé que... Qu'est-ce que ça dit, que c'est pas le Hachem qu'il avait fait.
Alors,
pourquoi, alors que si lui, après Hachem et lui, il sait qu'il n'a pas fait le Hachem, il sait que c'est pas pour ça, il y a une bonne raison pour laquelle il l'a envoyé au front, après c'est passé ce qui s'est passé.
Parce que Hachem est le péché le plus grave qu'il y a.
Mais lui, non, n'en a pas fait, c'est comme ça que c'est ressorti, mais non.
Je te réponds. Lashem est le plus grave qui existe. Même qu'on est à nous, on fasse un Lashem malgré nous. Par exemple, je te donne un exemple. Quelqu'un vient à la prière le matin, un rav. Moi, je vais essayer la yeshiva, je vais faire la prière à 9h. Je me mettais, et je commence à prier de 9h à 10h. J'ai une bonne raison. Ma femme a accouché justement, je reviens de l'hôpital, j'ai été sauvé la veuve et l'orphelin, j'ai fait une grande mitzvah, d'accord. Mais des gens vont dire, t'as vu le rav, lui se permet d'arriver à 9h comme ça faire la prière, chilou Hashem. Le dégât sera fait. Les gens vont parler mal sur la Torah. Alors, ou bien dire expliquer aux gens, ou bien aller prier tout seul à la maison. D'accord, chilou Hashem, c'est une chose qui est dangereuse. Il faut faire attention à cela. Ok. Donc, l'essentiel, j'avais expliqué, c'est demander Michila aux gens avant Yom Kippour. Surtout de ses parents. Le cinquième du commandement, honorer son père et sa mère. Rabbi Yochanan a dit dans la Gemara, heureux sont les orphelins. Parce que tellement l'exigence d'honneur de père et mère, il est tellement grand, qu'il est impossible que quelqu'un dont les parents existent, c'est impossible qu'il n'ait pas transgressé ça durant l'année et même tous les jours de sa vie. Je raconte juste une histoire pour qu'il y ait une petite notion de ce que c'est que le Kibbout Avehem. Un jour, Rabbi Yochanan est venu au Shiur, il a dit, Animezouaza, je suis bouleversé. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais chez des gens, que j'ai vu maintenant le fils qui a dit à sa mère, « Maman, passe-moi s'il te plaît le sel. » Je suis bouleversé. Un gosse demande à sa mère, pas un gosse de 7 ans, un gosse de 17 ans déjà, un grand garçon, il demande à sa mère, « Maman, s'il te plaît, passe-moi le sel. » C'est son serviteur, sa mère. Je suis bouleversé. Vous comprenez ça ? C'est-à-dire que nous, on est à des milliers de lieues de l'exigence de la Torah. Tu n'as pas le droit de dire non à tes parents. On ne dit pas non. Ils se trompent. Kimdoumani, papa, il me semblerait qu'on a appris autrement à Yeshiva. Tu vas dire non. Chaque fois que le père ou la mère rentre dans la chambre, il faut se lever. D'après la Torah, il faut se lever complètement, debout. Au garde à vous, même pas un petit mouvement, debout. Pour les Sfaradim, 1000 fois par jour. Donc, etc. Je vous dis, ça vaut la peine d'apprendre un peu les lois de Kibbout Avem, d'honorer son père et sa mère. Alors, il est absolument nécessaire, la veille de Yom Kippour, si les parents sont proches, alors on va les voir, on leur embrasse la main au père et à la mère, on demande Mechila, je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. S'ils sont pas là, alors par téléphone, excusez-moi pour tout ce que j'ai fait. Si les gosses sont idiots, alors les parents sont intelligents et doivent dire à haute voix, je pardonne à mon fils tout ce qu'il m'a fait comme détresse, tout ce qu'il m'a fait de mal cette année, Mechila Gmoura, un pardon total. Et les parents béniront leurs enfants avant de partir à la synagogue. On met les mains sur la tête des enfants, on les bénit. C'est un grand moment avant Yom Kippour. Oui.
Vous avez dit si les enfants sont idiots, si les parents sont idiots.
C'est-à-dire que...
Je ne peux pas comprendre une demande de pardon.
Oui. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à nous.
C'est quand même, mais ça ne sert à rien.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, demande.
On le fait ou pas?
Et eux, comment ils vont réagir?
Les parents sont peut-être simples d'esprit.
Oui. On perd quelque chose à le faire. On perd quelque chose à le faire. Si on perd rien, on peut le faire. Si ça ne fera pas de mal. Si ça fait du mal et ça ne sert absolument à rien, alors on n'a pas de temps à perdre non plus. Pardon?
Un peu de monde, ça va perdre.
Oui, oui.
Si une personne dit. Une femme a demandé si une personne dit grand pardon à quelqu'un et que cette personne lui répond, bon, elle me dit que je pardonne, mais elle ne pardonne pas.
Alors, quelque part, c'est pas bien que si la personne m'a répondu « je te pardonne », pour moi, j'ai réglé le problème. Il m'a dit « pardon, c'est bon ». Attends, lui, il n'a pas le droit de garder encore de la rancune une fois qu'il a dit « pardon ». Il dit « écoute, je ne peux pas te pardonner, reviens demain ». Beaucoup de tchatikoum, c'est comme ça, reviens demain. D'abord, lui, ça lui fera un peu réfléchir, que c'est pas comme ça, on vient pardon. Pendant 6 ans, tu m'as fait souffrir, et maintenant, tu me demandes pardon, et je te pardonne comme ça, tchitchak, c'est pas... Viens demain, tu me demandes pardon, attends, c'est une chose qui est trop dure pour moi, je dois un peu comprendre que je me demande pardon pour cette chose-là, que je souffre beaucoup de ce que tu m'as fait. Reviens demain, s'il te plaît. Il faut revenir dans 2 semaines, ça on peut faire. Et, du moment qu'on doit dire pardon, on doit pardonner. Si j'ai dit pardon, et je n'ai pas pardonné, je suis un menteur. Et je fais, quelque part, je me mets dans une situation de rancune. Une fois que si le type maintenant ne t'a pas demandé pardon, ou tu n'as pas pardonné, alors lui sait qu'il t'est redevable. Mais si maintenant tu lui as dit pardon, donc lui croit que la dette elle est réglée, en fait toi tu gardes une dette, c'est toi le fauteur. C'est toi le fauteur. Il faut pardonner.
Est-ce que la mère a le droit de bénir ses enfants si le père n'est pas là?
Bien sûr. Quand on parle des parents, c'est père et mère.
Ah, c'est-à-dire que normalement c'est les deux qu'il faudrait.
Ah ouais, absolument.
La mère peut le faire aussi pour le père en pension, que
le père est inatteignable. Alors elle sera pour la mère, elle ne peut pas pardonner à la place du père. Elle ne peut pas bénir à la place du père. Elle bénit, bah ou chachin. Ok, Mikvé. Mikvé, Israël, Hachem, le Mikvé d'Israël, c'est Dieu. Yom Kippour est un jour de Mikvé. Mais on n'a pas le droit d'aller au Mikvé Yom Kippour. Interdit de mettre le petit doigt dans l'eau à Yom Kippour. Même le petit doigt dans l'eau, seulement si on a les mains sales, parce qu'on a touché une saleté, ou bien on a été aux toilettes, ou bien le matin quand on se lève, on savera les mains, mais jusque-là seulement. Jusque-là, c'est-à-dire jusque, comme à Tisha B'Av, jusque la liaison des doigts avec la paume de la main, pas plus. Pourquoi? Il y a tellement de kdoucha ce jour-là, tellement de sainteté, que l'Etzara n'a pas d'ampleur. C'est marqué dans Tehilim, Yami, Mutsaru, Velo, Echad Mehem. Des jours ont été créés, et à lui, un parmi eux. À lui, c'est à Dieu, il y a un jour qui appartient à Dieu, c'est le jour de Yom Kippour. L'Etzara, le Satan, n'a pas d'emprise. D'ailleurs, Satan, dans Gematria, combien ça vaut? Shin Ketnun, ça nous fait 359. Avec Ha-Satan, le Satan fait 364. C'est une année entière, moins un jour. Le Satan, il a 364 jours par année, c'est son domaine. Il a droit d'agir. Yom Kippour, il ne peut pas agir. C'est pour cela que on va faire une Netila qui est moins grande. Il y a quand même un peu de Touma. C'est pas, croyez pas qu'il n'y a plus de Yessera, il n'y a plus de mauvaise pensée à Yom Kippour, il n'y a pas de Yessera de s'énerver, il y a. Mais il a beaucoup moins d'emprise. C'est-à-dire que le grand Sitra Achra, le côté du mal, il est éliminé.
Il a moins d'emprise que
durant ce jour-là. Pardon?
Il a moins d'emprise que Shabbat.
Beaucoup. Pardon?
Il fait du monde de Shabbat alors.
À certains égards, oui. Yom Kippour, c'est un jour de pardon. Shabbat n'est pas un jour de pardon. Au niveau de la Kedusha, la sainteté, Shabbat est plus grand. Transgresser Kippour, quelqu'un qui allume du feu à Kippour, il transgresse un issur karet. Celui qui transgresse, qui allume du feu à Shabbat, il transgresse un interdit beaucoup plus grave de mitat bedin, de lapidation, s'il y a 2 témoins, etc. Donc, on ne lave pas les mains, à même pas les petits doigts, à Yom Kippour. Une femme qui doit préparer à manger pour les enfants, elle peut se toucher de l'eau, il n'y a pas possible, s'il faut laver une pomme ou quelque chose, quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Mais sans comme ça pour rien, c'est interdit.
Si vous m'avez dit, quelqu'un qui serait avec une pollution, il peut se nettoyer la partie.
Oui, c'est une saleté. pollution nocturne, d'accord, si quelqu'un a du sperme sur soi, tant que le sperme n'est pas sec complètement, c'est comme des excréments qu'on n'a pas le droit de dire un seul mot de Torah. Il est essentiel, nécessaire, impératif de s'essuyer complètement. On va arriver pour les pollutions nocturnes de jour de Kippour, il faut en parler aussi. Quand je parle de se laver, d'accord ? Donc on peut se laver que, comme j'ai dit, les doigts. Si jamais il y a nécessité, parce que tu as une saleté, par exemple tu es aux toilettes, il y a une goutte d'urine qui est tombée sur ta main ici, c'est certain que tu peux te laver. On se lave uniquement quand il y a de la saleté. Comme ça, pour rien, on se lave pas. Le mikvé, on ne pourra pas y aller, même ces pollutions nocturnes, chassé shalom, à Yom Kippour, on ne va pas au mikvé, on pourra que s'essuyer, et bien s'essuyer, ou se laver, s'il y a une nécessité de se laver aussi, l'endroit même. Par contre, il est très conseillé d'aller au mikvé la veille de Kippour. C'est quand même le jour du grand pardon, Dieu vient en tant que mikvé, alors nous on va au mikvé, on se purifie, on va au mikvé, tout le monde va au mikvé la veille de Kippour. Il faut aller relativement tôt, parce qu'on a beaucoup de travail l'après-midi. Pourquoi ? Parce que on va au mikvé. Après, on va faire Mincha, ou avant Mincha, peu importe. À Mincha, on fait déjà le grand vidouille de Yom Kippour. Dans les prières de Yom Kippour, après chaque prière, il y a un grand vidouille. On fait un très long vidouille. Confession, d'accord ? Ça, on le fait à toutes les prières de Yom Kippour. On fait déjà un vidouille avant que Kippour rentre. Pourquoi ? De peur que quelqu'un, après, il va faire le repas d'arrêt, le repas qu'il y a juste avant la fête, et on a peur qu'il s'étrangle durant le repas, tellement la pression elle est haute, et il meurt sans faire de vidouille. C'est idiot d'être mort la veille de Kippour sans faire un vidouille. Donc on fait le vidouille déjà à Mincha. Donc on fait Mincha normal, on dit Yul Rasan Mefenech Hashem Tour Bigoli, et là on commence, on fait le vidouille de Erev Yom Kippour. C'est le vidouille normal de Kippour.
Le premier jour devra se comporter comme à Rosh Hashanah, faire les prières, penser à.
Oui, qu'on se purifie, qu'on enlève, les.
C'est important ça, ou c'est des détails
de... Non, ce sont des détails. Essentiel, c'est un peu au mikvé. Et penser que tu purifies. C'est bien de faire à peu près. Un certain nombre de fois. Il n'y a pas de chiffre spécial, d'accord ? C'est. Ok ?
Plus agressé ou.
Ouais, on va passer des heures au mikvé. De temps en temps, c'est bon, c'est pas. Le matin, il est bien de manger du poisson. La veille de. Pas à Kippour, le matin, la veille de Kippour. D'accord ? Parce qu'il y a. L'œil de Dieu, c'est une notion très haute de mystique juive, d'accord, c'est qu'il y a un œil de Dieu qui toujours garde à Israël. Même quand Am Israël fait des bêtises, tout ça, il y a un œil qui préserve Am Israël. C'est une notion très très haute d'amour de Dieu, qui est comme l'œil des poissons qui jamais ne se ferme. Toujours il reste ouvert. Et cette prina, cette notion divine, elle se réveille le matin de Yom Kippour. Donc c'est bien de manger un peu, pas besoin de manger, hein, d'accord ? Goûter un peu de poisson le matin de Yom Kippour, ça vaut la peine. Il est bien de beaucoup manger. Depuis Kabbalah, c'est bien de faire 6 ou 7 repas avec Amotzi, Birkat Amazon, la veille de Kippour. C'est très dur. En tout cas, il faut bien manger. Donc celui qui mange bien la veille de Kippour, on compte comme s'il a jeûné les deux jours. Et la veille et le jour de Kippour. Quand on va faire Mincha à la synagogue, c'est bien aussi de faire les flagellations, d'accord ? Pas des vrais, on prend une ceinture de cuir et on se fait donner quelqu'un, on se met les bras sur le mur, comme ça à pencher, et quelqu'un nous donne 39 coups, il faut donner les 39, ça fait 3 fois 13, 2 fois 13 derrière et 1 fois 13 devant, comme on est les malkoutes, et penser que c'est à la place des péchés sur lesquels on est chayav, on était redevable d'un malkout. Malkout, c'est les 39 coups qui étaient donnés pour certains péchés qu'on avait faits. Alors, faut pas taper, faut tapoter, d'accord? Et c'est bien de dire, vehu, rachum, echaper, avon, velo, yachir, virimas, il y a 13 mots dans ce verset-là. Donc, on dit les 13 mots, celui qui frappe, il dit vehu, rachum. Celui qui est en train de se faire frapper, il fait tchouva sur tout ce qu'il a fait. La chose est très facile à ces moments-là, on peut gagner des milliards très facilement. Parce que Dieu vient maintenant avec une lumière qui nous aide à faire tchouva. Il y a un midrash qui dit que c'est comme un roi qui vit dans une ville et qui a dit à tous les habitants de la ville qu'il aimait, je vous aime tellement, sortez tous les ordures maintenant de la maison et moi je passe avec mon camion de voirie et je ramasse toutes les ordures. Alors vas-y, tout ce que tu as comme ordure à raconter, que tu as fait durant l'année, tout, je regrette que j'ai fait ci et ça et ça et ça et tout en larmes. Alors je sors complètement propre ce jour de Kippour.
Regretter ça va, mais prendre sur soi de ne pas refaire, c'est autre chose. Bon, alors si maintenant on regrette, mais qu'on sait que...
Chaque chose a de la valeur. Pour que ce soit une tchouva totale, absolument nettoyée, 100% transformée, la valeur tombe, il faut que ce soit complètement certain que tu es sincère de ne plus le refaire. Entre nous, quelqu'un qui est sincère, il se peut que dans 6 mois il retombe. Mais il faut qu'il soit sincère maintenant pour une décision qui est totale. Alors c'est bon. Maintenant, il n'arrive pas. Il sait que lui, il ne tiendra pas 2 semaines. Alors, il dit, je vais essayer, je prends sur moi d'essayer toutes mes forces. Ah, ça aussi, c'est bien. Dieu comprend qu'on n'est pas, il n'y a pas de crêpe, que tu rentres comme ça, tu ressors comme ça, d'accord? On avance. C'est un jour de grand nettoyage. Ce qu'on arrive à nettoyer, on nettoie. Ce qu'on n'arrive pas à nettoyer, on ne nettoie pas.
J'ai une question maintenant. Si jamais quelqu'un a fait tomber sur quelque chose, tellement fort, on dit qu'Hachem bénisse la personne qui refera plus cette chose que toute sa vie.
Qui a dit ça?
C'est marqué ça.
C'est non, c'est qui est, lorsque tu fais Shuva, oui. Quand tu fais un péché, tu attires sur toi un esprit d'impureté qui te repousse à faire ce péché. Attends, quand tu fais Shuva, tu attires sur toi maintenant un esprit de pureté qui t'empêche de faire ce péché. Mais ce n'est pas un empêchement total. C'est-à-dire que tu as une certaine protection. Tu peux facilement aller et enlever la protection et retomber.
Mais maintenant, on dit que il est tellement sûr de jamais refaire ce péché, pour lui, ça devient évident. Il fait Shuva sur ce péché. Maintenant, 10 ans après. Il est retombé. C'est le Shuvah pendant 10 ans.
La Shuvah, elle est valable. Elle est complètement valable.
La Shuvah est complètement valable, mais d'un côté, elle n'est pas vraiment valable.
Si, si. Non, je vais bien je réexplique pour la énième fois. Comprenez bien. On n'a absolument rien à faire si elle va retomber ou pas. On n'a rien à faire, ça touche en rien la Shuvah. Ce qu'il faut que pour la Shuvah soit valable, c'est que quand il est sur place et il fait Shuvah, il prenne sur lui de façon sincère de ne plus jamais retomber. C'est une promesse totale. Il arrive qu'on fasse une promesse, une décision, et une décision, elle s'émousse. C'est naturel. Faut le refaire, tu vois, bien sûr, au Hachem. Sheva ipot, tzadik vakam, 7 fois le tzadik, il tombe, il se relève.
Et il tombe pas sur des détails, il tombe sur.
Le tzadik, il tombe. Il tombe dans la mouise, il tombe dans les ordures, il est tout sale. Et il se relève et il fait tchouba. 7 fois. Et Dieu le reprend avec joie. Plus que cela, c'est marqué, c'est comme un trou que tu creuses. Tu creuses le trou, après tu reviens, de nouveau, hop, tout le sable est rentré dedans. Tu reprends, tu creuses, tout le sable est rentré dedans, etc. Au bout d'un moment, tu verras que le sable, il est beaucoup plus facile à sortir.
On voit dans le tri de la chaîne, la personne a beau faire tchouva, qui court, les épreuves, plus la coupe, tout ça, etc. De toute façon, ça reste à vie. C'est
qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça?
C'est marqué dans
le Rambam. Mais Rabbeinu Yonah, il dit qu'on peut réparer complètement Berkhoul Hashem avec du Kiddush Hashem. Tu vas faire beaucoup de Kiddush Hashem. Dans la balance du Kiddush Hashem, il va enlever le Khidoul Hashem.
C'est même que le Khidoul Hashem qui a été causé, lui, il reste à vie.
Mais non, si tu répares. Le Rabbeinu Yonah. Tu vas aller au Lamaba. Rabbeinu Yonah, il a écrit dans Shaar HaTshuva. Rabbeinu Yonah, il est contemporain du Rambam, d'accord? C'est un super solide calibre, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est la Torah, tu as toujours des avis différents. Tu as le Rabbeinu Yonah, ok, alors c'est bon. Le Rabbeinu Yonah, il a dit Kiddush Hashem, appelle Kiddush Hashem, il répare. Il répare, vas-y, fais Kiddush Hashem. Oui, il est sarade en plus. Et il est international.
D'accord. Ça va de soi, mais sans du nether.
Pardon ?
Ça va de soi, sans du nether.
Parce qu'on revient à tout fait que tu veux sincèrement,
mais il
ne
peut pas
qu'il y
ait du nether.
Non, comme ça. Nether, un vœu, existe que pour une chose qui n'est pas obligatoire. Quelqu'un dit, je ne mange plus de viande de ma vie. Il doit dire, bli nether. Parce que ce n'est pas obligatoire de ne pas manger de la viande. Tu as pris sur toi une chose, par exemple, tu dis bli nether. Mais si maintenant quelqu'un il dit, je mange plus de porc de ma vie. Tu n'as pas à dire nether ou bli nether. Tu as déjà fait le vœu au Mont Sinaï. Avant de venir sur Terre, ton âme était au Mont Sinaï et tu as juré que ce soit toute la Torah. Donc tu as déjà juré. Qu'est-ce que tu dis maintenant, bli neder? Oui, neder. Il n'y a aucun problème. Tu peux dire, moi je fais le neder de ne pas manger du porc. Ça ne change rien. Tu as déjà fait le neder. Ce neder, ce vœu, il existe. Donc tout ce qui concerne Torah, on est obligé de le faire, qu'on veuille ou pas, et il n'y a pas à dire bli neder. Je ne referai plus, c'est pas maintenant, je dis je ne referai plus bli neder. Parce que tu es déjà obligé de ne pas le refaire. À moi, tu parles d'une chose maintenant, qui est, par exemple, on va dire quelqu'un, hein, on va dire, il a Anusha Béar. Pour faire la fin de la prière, il se trompe, il croit que c'est Tfilat HaDerech. C'est la prière quand on part en sourchant, il sort de la synagogue et Tfilat HaDerech en sortant. D'accord? C'est permis. C'est pas bien, mais c'est permis. Il prend sur lui maintenant, moi maintenant je prends sur moi, de plus jamais, de finir jusqu'au dernier mois de Shabbat, je reste dans la synagogue en train de le dire. D'accord? C'est pas obligatoire. Là, il faut qu'il dise Blinader. Parce que c'est une chose qui n'est pas obligatoire. Je prends sur moi du moussard tous les jours. Il faut dire blinéder, c'est pas obligatoire. Je prends sur moi de toutes les choses qui n'est pas obligatoire. Là, il faut absolument, et c'est nécessaire de dire blinéder. À ce propos, c'est très important de dire cela. La veille de Kippour, on fait Atarat Nedarim. Comme on fait la veille de Rosh Hashanah, on fait aussi la veille de Kippour, Atarat Nedarim. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui croient que cette Atarat Nedarim, cette libération des vœux, elle libère les vœux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. On appelle cela Atarat Nedarim parce que il y a 4 niveaux. Il y a l'acte, il y a la parole, et à la pensée, et ça s'appelle Ruta Deliba. Ruta Deliba, c'est la, l'envie profonde. Le Atarat Nedarim que nous faisons, l'éveil de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, elle sert seulement à réparer, à exprimer notre Ruta Deliba, notre envie profonde, comme quoi nous ne voulons pas qu'il y ait des Nedarim, que nous, des Nedarim, ne comptent pas comme étant un péché. Mais si quelqu'un sait qu'il a fait un Neder, il a fait un vœu, ou il a fait une coutume non obligatoire, plus de trois fois, il n'a pas dit bli neder, alors elle devient obligatoire chez lui. Quelqu'un qui, je ne sais pas moi,
il faut
dire
trois fois.
Il fait par exemple. En sortant des toilettes, il suffit de lever les mains sous le robinet. Ça, c'est la halakha. Quelqu'un, il est marmir, il fait avec un cli, avec un ustensile, il fait trois fois. C'est pas obligatoire. Trois fois, il a fait ça, sachant que ce n'était pas obligatoire. S'il croit que c'était oui obligatoire, ce n'est pas un neder. Si quelqu'un s'est trompé, il a cru que c'était obligatoire, ce n'est pas un neder. Mais s'il croit que ce n'était pas obligatoire, et trois fois de suite, il a fait comme ça. Alors, et il savait que ce n'était pas obligatoire. Pourquoi tu as fait ça? Tu n'es pas obligé. Tu as pris une coutume. Trois fois, c'est comme une coutume, ça devient un neder. Là, pour se libérer d'un neder de ce type-là, il est obligé d'aller devant trois juges, tribunaux, enfin, prendre trois personnes, et ils devront lui demander maintenant pourquoi est-ce qu'il a fait cela. Est-ce qu'il regrette? Pourquoi il regrette? Est-ce que, sachant que maintenant il regrette, il regrette de ne pas avoir dit blineder, il regrette d'avoir pris sur lui de faire ce minage, parce que s'il savait qu'il arrivait dans une situation pareille, qu'il n'aurait pas un cli, etc., des tas de choses, il regrette beaucoup de ne pas avoir dit blineder. Dans ce cas-là, le tribunal rabbinique va lui dire moutarlach, 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 et là, le neder, il est autorisé. Mais faire la atarat nedarim que nous faisons en public sans qu'il y ait ce dialogue avec le Beddin, que les disent pourquoi tu as fait ça, est-ce que tu regrettes, est-ce que tu regrettes pas avoir dit blineder, ça n'a pas lieu, l'atarat nedarim ne compte pour rien. On l'a fait simplement pour exprimer à Dieu notre envie profonde du cœur, comme quoi on n'est pas pour ce genre de choses-là. Mais au niveau du neder, le neder il est là tout aussi bien. Donc, il faut très attention. Ça sert pour notre, que notre aussi, dans le cas, on soit plus calme. C'est tout. Mais pas plus. Il ne faut pas se tromper beaucoup dans ce coup. Ah, j'ai fait la tarte d'arim à Kippour, c'est terminé. C'est faux. Quelqu'un a fait un neder.
Que
le vrai. Que non plus. Rien du tout. Rien. Rien de rien. Rien de rien. C'est une prière. Tov. On va dire une dernière chose, après on continuera demain. Shehriyanu. Les hommes, ils vont à la synagogue, et au moment de Kol Nidre, le Shahar Tzibour va dire deux fois le verset Or Zarola Tzadik ou les Shalom Simcha, lumière semencée pour le Tzadik ou les Shalom Simcha, et ceux dont le cœur est droit, Simcha. À ce moment-là, c'est un dévoilement de lumière extrêmement grand dans le monde. Quand on sort le Sefer de Kol Nidre, on sort tous les livres qu'il y a dans le Aaron, et le premier c'est celui de Kol Nidre, celui où on lit trois fois Kol Nidre, chaque fois sur un autre livre, où on fait transmettre le livre de quelqu'un, d'une personne à une autre, en tout cas trois fois on va dire Kol Nidre, et ce Sefer Torah qu'on a sorti pour Kol Nidre, il y a une lumière extrêmement grande qui se dévoile à ce moment là c'est pour ça d'ailleurs que Rabbeinu Ari dit que quelqu'un qui a péché avec les femmes, qu'il donne toute sa fortune pour acheter le zhout, le mérite de tenir le livre de Sefer Torah, et dire qu'on aiderait avec. Parce que effectivement, quand tu le tiens maintenant, c'est comme si tu répares ce que tu as tenu d'interdit, tu tiens maintenant en kudusha, une lumière extrêmement grande qui se dévoile à ce moment-là. Vu qu'il est impossible que tout le monde achète le livre, qu'est-ce qu'on fait? On passe après dans le tzibour, on fait vraiment un aller-retour avec le Sefer Torah, et tout le monde va et embrasse. Et quand on embrasse le Sefer Torah, il faut penser maintenant que je répare tout ce que j'ai pu embrasser ou enlacer de façon interdite durant ma vie. Les femmes interdites, d'accord? Donc ça, c'est un grand tikkun abrit, une grande réparation de tikkun abrit, de ce qui est un péché au niveau sexuel, d'embrasser. Qu'est-ce qui carrette?
D'avoir une relation avec un rapport interdit.
Pour le centre interdit. Oui, c'est carrette. Si on sait que c'est carrette.
Ah, on le sait maintenant.
Ouais.
Si nous maintenant on va venir, on va se faire Torah.
Ça sert, c'est pas, il faut une réparation plus grande, il faut aller voir un chacham comment faire, mais en tout cas ça a une grande faculté de réparation.
Qu'est-ce qu'on a par interdit? J'ai été marié, je sais pas ça.
N'importe quelle femme. À part sa femme juive qui va au milieu.
Et pour toute notre vie, ça répare.
Non, moi je dis que c'est bien, ça a une grande faculté, mais c'est pas suffisant. Il faut beaucoup plus pour cela, d'accord? C'est un péché grave. Ok. À ce moment-là, celui qui tient le Sefer Torah fera aussi Shehriyanu. Il fera Shehriyanu pour la fête de Yom Kippour qui rentre maintenant, et nous devrons penser être rendu quitte par la bracha du Shehar Tzibour, et le Shehar Tzibour doit penser nous rendre quitte. Toi qui diras aussi, Birchut Shamaim, Birchut, avec l'autorisation du ciel, et que tout le monde soit ici présent et pense être rendu quitte, il dit, Shehriyan, Kéon, Azmanazé, la bracha, tout le monde répond Amen. Les femmes qui ne sont pas présentes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Alors, il y a une grande discussion. Est-ce que la femme, parce qu'elle allume les bougies de Yom Kippour, elle va faire la bracha Ba'urata Hashem le Kalam Melech Olam, Asher Kedeshanu, Bemusa Betsivanu, Ladnik Ner Shalem Kippourim. Est-ce qu'elles font aussi après Shehriyanu, oui ou non? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Elles feront comme elles voudront, les deux ménages, chacun comme il fait, il a sur qui compter. Néanmoins, si elles ne le font pas à la maison, ce sera quand même conseillé d'aller à la synagogue, au moins écouter le Shehriyanu de la part du Shaliach Tzibour. On va s'arrêter ici, on reprendra ce Kon Nidre demain, Imanse Hashem, ou cet après-midi.